Dans ce qu'on vient d'entendre là, alors peut-être qu'Erwan peut donner aussi sa vision et son oreille et son écoute de cette chose-là. Dans ce qu'on vient d'entendre là, finalement, quand on est extérieur au jeu, vous les musiciens, vous avez une perception et puis nous, on l'écoute seulement et on entre dedans, bien sûr, et on peut se poser les questions suivantes, à savoir, finalement, c'est une conversation. Tu disais tout à l'heure, l'improvisation, c'est une conversation. La rencontre de plusieurs points de vue, peut-être, de plusieurs points de vue, de plusieurs perspectives. Est-ce que c'est une conversation? Et dans cette conversation, est-ce que chacun essaie de s'adapter à l'autre ou pas du tout? On est entièrement soi-même. Comment ça se passe? Comment tu l'entends, toi, Erwan, par exemple?
Moi, j'ai l'impression que l'improvisation, c'est surtout la musique du choix, la pratique du choix. Donc, des personnes décident de partager un moment collectif et que le résultat de leur travail commun, c'est la musique. Mais chaque individu dans ce collectif doit prendre part, exister. Donc, c'est pas simplement pour moi de la conversation, en fait. C'est aussi pouvoir dire qui on est. Pouvoir affirmer ce qu'on est, ce qu'on a décidé de faire dans la musique, ce qu'on a décidé d'être en tant qu'humain. Et ça passe par une forme de bienveillance envers le musicien avec qui on joue. C'est-à-dire que même si on va sur quelque chose qui puisse sembler heurter musicalement la personne avec qui on le fait, on ne heurte pas humainement. Le but et le résultat est la musique. Et comme c'est bienveillant, on peut imaginer plein de façons d'échanger ensemble.
Kamel, tu le ressens comme ça?
Oui, c'est alors bon, moi je ne disais pas que l'improvisation c'est une conversation.
Non,
hein,
non,
c'est ça peut.
C'est... Non, mais... tu comparais à la conversation.
Je comparais à la conversation.
Mais il y a des improvisateurs qui
non,
disent
mais
ça.
Ouais. Bien sûr que la bienveillance, très modestement, on ne fait que de la musique, on ne fait pas de mal, on fait voilà. Et c'est vrai que bon, je vais pas parler de ça, ce qui compte, c'est l'engagement en fait, c'est d'être volontaire et d'être engagé. On ne peut pas, à mon avis, faire de l'improvisation sans être engagé. Je n'arrive pas à le concevoir. Mais ça n'a pas de sens pour moi. Hein. Donc il y a cet engagement, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord il y a une grande modestie quand on est dans un groupe collectif, parce que moi par exemple je faisais la guitare que j'ai maintenant, celle-là elle sonne, mais avant j'avais une guitare classique, je mettais un petit micro dessus et j'étais toujours noyé, ça sonnait pas, mais en même temps si je jouais pas, ça s'entendait quelque part que je jouais pas, mais je sortais pas, j'étais pas en avant. Et moi, ça ne m'a jamais dérangé d'être justement un élément dans cet ensemble-là. Parce que c'est un ensemble d'improvisation, c'est une société, c'est déjà une petite société. Et donc, à l'intérieur, c'est intéressant d'apporter sa contribution et avec son langage, avec son engagement, ce qu'on est, et puis avec la puissance de son instrument, avec le jeu, voilà. Et donc ça, et c'est vrai que quand on décortique, qu'on écoute une improvisation, ça s'entend.
Justement, parlons de l'instrument et de l'évolution des modes de jeu ou la façon dont on approche l'instrument. Et je pense qu'Erwan peut évidemment apporter sa propre expérience et son propre témoignage. Kamel, toi, tu as grandi en France, mais tu as des origines algériennes, donc, et ton grand-père était maître gnawa dans le Diwan de Biskra. Donc tu as à la fois cet apport, tu as étudié au conservatoire à Paris, mais tu as cet héritage plus cette expérience ici en Occident et en France. Et les deux sont venus se compléter, se nourrir l'une l'autre, d'où ces expériences du Festival de l'eau et du Cercle. Pour Erwan, c'est assez proche finalement, il y a un héritage, c'est la cornemuse.
Oui, j'ai appris la cornemuse dans... ce que maintenant j'appelle la tradition sonnée en Bretagne, enfin on est plusieurs à l'appeler comme ça. Quand j'étais enfant, évidemment on n'appelait pas ça comme ça, on appelait ça la musique bretonne tout simplement. Donc j'ai hérité de ça, j'ai appris la musique en couple et en bagade, donc dans les ensembles. je fais de la cornemuse écossaise, donc j'ai aussi appris de la musique écossaise. Donc elle, qui est une musique, pour celle que j'ai étudiée, une musique standardisée, donc qui est sur partition, avec précisément des versions qu'on doit restituer. En musique bretonne, il y a aussi les deux. Donc la possibilité d'écriture, c'est le cas pour les bagadous, parce que c'est une musique d'ensemble, donc pour que tout le monde joue la même chose, c'est écrit. Et l'autre chose que j'ai appris quand j'étais adolescent, c'est la musique de couple, donc bombarde et cornemuse, qui est une pratique, elle, de plus dans l'oralité. Donc généralement c'était mon frère qui collectait ou récupérait des morceaux et qui du coup les amenait. C'est principalement comme ça que ça fonctionnait. C'est rarement moi, j'étais un peu trop feignant. Et il y a eu un moment dans... Je vais juste faire une petite digression parce que tu as parlé de Kandinsky tout à l'heure. La petite histoire dans la grande, c'est que Kandinsky, donc, il faisait du figuratif. Et un jour, il rentre chez lui, dans son atelier, et il faisait un peu sombre, et il voit un tableau qu'il trouve donc chez lui, qu'il trouve vraiment merveilleux. Et il met un petit moment à se rendre compte que c'est un tableau de lui, mais qui est simplement à l'envers. Et qu'en fait, il a quitté le figuratif à partir de ce moment-là. Donc c'est comme, il est parti de lui-même, en fait. Il est parti de ce qu'il était pour devenir ce peintre qui a quitté le figuratif. Et moi, ça me parle beaucoup parce que je suis passé par un moment dans ma vie de musicien où c'était il y a quelques années maintenant, où j'ai tenté de faire de la cornemuse écossaise un instrument universel. Enfin, c'était mon ambition. Ce que je veux dire par là, c'est que je voulais que cet instrument, qui est très culturé, puisse être le vecteur d'une pensée ou d'une musique qui n'évoque pas son origine culturelle. L'improvisation a été une manière de trouver ça. Donc ça a été en rencontrant des improvisateurs. Je n'ai pas la même pratique d'improvisation que Kamel, c'est-à-dire que je ne pratique pas avec des grands ensembles. Généralement, l'improvisation, telle que je la pratique, c'est soit tout seul, soit à deux, parce qu'à trois, c'est le début de la politique. Donc il faut commencer à faire alliance. c'est la société que tu racontais tout à l'heure, c'est une petite société. Donc je suis dans une pratique plutôt maintenant seul ou aussi avec d'autres musiciens. Et cette forme d'improvisation, donc, qui est de rencontre avec des musiciens qui sont éloignés de ma culture, m'a obligé à prendre position par rapport à ce que moi j'étais. Tout simplement parce que l'instrument que je joue dans la musique traditionnelle a la position du chant lead. Donc de la dite de la mélodie, mais si je me retrouve à jouer avec Jean-Luc Capozzo à la trompette et que moi je ne fais que de lui dire des mélodies, à un moment je lui laisse aucune place, en fait je n'échange pas avec lui, je fais que dire que ce que je suis et je le laisse se débrouiller avec ça. Donc c'était pas possible pour moi d'en rester là. Donc effectivement, je suis allé dans ce que tu appelles les modes de jeu, ou ce qu'on appelle autrement les sons périphériques, c'est-à-dire trouver dans l'instrument des possibilités d'émettre des sons qui sont différents que son jeu habituel.
C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de est-ce qu'on adapte ? Tu as fait un travail d'adaptation finalement. Si tu voulais aller plus loin dans la discussion ou dans la communication avec ce musicien qui est Jean-Luc Capozzo ou qui est Mats Gustafsson ou Benyat Hachari, tu ajustes ou tu adaptes ou tu cherches plus loin ou tu transformes. C'est les techniques après, et les modes de jeu, oui.
J'ai choisi de ne justement pas avoir un instrument particulier.
Oui.
Donc l'instrument que j'utilise, c'est un luthier. Vous pouvez acheter la même cornemuse que moi, il n'y a pas de problème. L'enchage qui est dedans, c'est un enchage qui est acheté dans le commerce. C'est pas du tout un instrument préparé. J'ai voulu vraiment partir de l'instrument que j'ai appris depuis tout petit, et donc je ne me sers que de lui. Donc ce que j'ai cherché à révéler, c'est ce que d'habitude on cache. Dans la cornemuse écossaise, on a trois bourdons et un pied mélodique. Le bourdon a son rôle de faire un son continu et le pied mélodique a celui de dire le chant. Maintenant, quand on a dit ça, l'instrument a beaucoup de possibilités. Il a des possibilités avec les anches des bourdons, c'est des anches ligaturées, des anches simples. Donc ça veut dire qu'ils ont un premier ton, ça veut dire qu'elles sont aussi incontrôlables, suivant comment on leur envoie de l'air. Le pied mélodique, comme toutes les flûtes et tous les instruments à trous, on peut faire des demi-trous. Comme c'est une anche double dans le pied mélodique, suivant quel demi-trou on fait, on peut fendre le son. Donc ça, évidemment, la musique traditionnelle a horreur de ça. C'est même une erreur de jeu. Donc c'est plutôt toutes ces choses-là. Alors après, quand j'ai commencé à me travailler toute cette possibilité, toute cette palette de jeux, ça fait pas de la musique, ça. Ça fait que du son. Donc il a fallu que de ces différents matériaux que j'ai pu collecter, récolter sur cet instrument, élaborer un discours musical. Et que c'est là que la pensée, évidemment, prend part pour réussir à ce que ces choses-là s'organisent, tout simplement.
Ce que disait hier Romain, d'ailleurs, par rapport à son instrument, au début, il avait les outils. Exactement. Et après, il fallait développer la pensée et le discours autour de ça. On peut peut-être écouter un extrait de toi avec Mats Gustafsson, parce que là, on est sur deux territoires, deux parcours très différents. Donc, comment est-ce que tu as rencontré Mats Gustafsson, saxophoniste?
Si tu veux bien, je viens parler d'un truc avant.
D'accord, vas-y.
Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que...
C'était juste pour qu'on entende un peu ton...
Ah mais oui, mais je vais vous faire écouter. Parce que du coup, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis passé par le moment où j'ai voulu tenter de faire de cet instrument un instrument universel. Bon, j'ai mis quelques temps, j'ai passé beaucoup d'énergie. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Tout simplement parce que j'ai la même culture que cet instrument. Donc, tendre vers une forme d'instrument universel par moi était forcément difficile, voire impossible. Et donc, du coup, dans mon rapport à l'improvisation, c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis constamment dans à la Kandinsky, en fait. C'est tout le temps un rapport avec la musique traditionnelle que j'ai entendue enfant. C'est à chaque fois, elle est là ou elle n'est pas là. Elle est là, mais quand elle est là, comment elle se révèle? Comment aussi une autre musique traditionnelle, je peux l'apercevoir? Mais quand elle est pas là, c'est aussi qu'est-ce qui reste de ça? Est-ce que la musique traditionnelle, pour avoir pour exister, ça doit forcément passer par du répertoire? Moi, je crois pas. En fait, j'ai l'impression que on est dans une musique d'héritage. J'ai appris des choses, j'ai hérité de choses. Maintenant, cette musique, là où je rejoins tout à fait Kamel, sur la photographie, c'est effectivement totalement faux. La musique traditionnelle, c'est la musique des vivants. Donc, on reçoit un héritage, on en fait ce qu'on en veut. Ce que je fais s'arrêtera peut-être avec moi. J'espère pas quand même, mais bon, on sait jamais. Ou quelqu'un d'autre aura envie de le prendre et de l'amener ailleurs. Donc, évidemment, pour l'instant, on peut pas dire que c'est traditionnel, je suis tout seul à le faire. Mais. Quoi que je dis ça, il y a des Américains qui ont tenté quand même des choses qui sont plutôt bien. Mais après, c'est savoir comment ça va être récupéré, ça c'est autre chose. Du coup, j'avais envie de vous faire écouter deux choses différentes. Donc, une chose avec Mats Gustafsson, mais avant ça, un duo que je joue beaucoup en musique improvisée, c'est avec Beñat Ashiari. Et Beñat est un chanteur basque. Il vient de la musique traditionnelle, comme moi. C'est-à-dire que quand il était... il a appris la musique avec les chants de berger. Et un jour, sa route a croisé celle de Bernard Luba et il a commencé à s'intéresser à l'improvisation. Et je vais vous faire écouter un extrait d'un enregistrement qu'on a fait ensemble où vous allez voir ce qui vous semble être traditionnel ou pas. Donc je vais pas partir du début de la pièce parce qu'autrement ça va prendre des plombes, mais je vais partir du milieu. Ça va?
Erwan, là, on est dans un, finalement, dans un exemple assez typique de ce que fait Beñat souvent, Beñat Hachari, à savoir d'évoluer sans cesse entre ses racines, entre l'héritage, entre la tradition. Donc, ce chant de la fin, hein, qui est un chant.
Qui est un chant de berger. Mmh. Pour vous dire comment ça a été fait, cet enregistrement a été fait. Donc là, il manque 2 minutes et demie du départ. C'était en studio. On a Beñat et moi avons fait les niveaux pour nos micros. Et ça, c'est donc la première chose qu'on a enregistrée quand les niveaux étaient faits. Donc c'était play, record. Donc évidemment, je ne savais pas qu'il allait citer ce chant de berger à un moment. Je l'ai découvert quand il l'a fait. Rien n'était défini en fait dans la musique qu'on allait jouer. Tout est totalement improvisé. Enfin, tout est presque et n'est pas et sans prescription. C'est-à-dire qu'évidemment, cette mélodie existait avant. Il ne l'a pas inventée sur le moment, elle existait avant. Donc, tout ça pour dire, oui, parce que je voulais en venir là. Pour le musicien traditionnel, comme ce que moi j'ai appris quand j'étais enfant, la pratique avec quelqu'un comme Beñat forcément pose la question de la mélodie. La mélodie, comment elle existe en fait? Qu'est-ce que pour un musicien de musique traditionnelle, tradition sonnée comme moi, qu'est-ce que c'est que cette mélodie? Comment elle est organisée? Et d'une certaine manière, est-ce que je peux la voir autrement, prendre une position de lead mélodique autrement que par prendre la lead du chant, avoir une organisation avec sa phrase répétée, avec cette forme organisée qu'on va suivre et qui est compréhensible? Et là, du coup, ça me donne envie de vous faire écouter autre chose, qui est donc justement quelque chose que j'ai enregistré tout récemment avec un saxophoniste suédois, qui s'appelle Mats Gustafsson. Et Mats, lui, il vient du noise, du free jazz. Donc forcément, là, se pose une nouvelle fois la notion de la culture dont t'as beaucoup parlé, Kamel, tout à l'heure. Je suis très éloigné dans la connaissance de ce que ça peut être le noise. Mats, évidemment, ne connaît pas grand-chose à la tradition sonnée en Bretagne. Donc, on a évidemment le langage commun de la musique. Enfin, on a un langage commun parce qu'on est tous les deux soufflants, en fait. On a une compréhension de ce que peut produire l'autre d'un point de vue sonore. Par contre, dans l'organisation de la musique, vous allez voir, ça peut être assez chaotique.
Et c'est quelqu'un qui réfléchit énormément à l'improvisation.
Oui.
Et qui écrit sur le sujet, oui.
Voilà, c'est un court extrait. Hein. Ça dure trois quarts d'heure.
Alors, il y a des mots qu'on a évités jusqu'à présent, mais on va peut-être pouvoir en parler maintenant. C'est la recherche de l'inouï, peut-être, de l'imprévu, en tout cas recherche sonore, évidemment travail sur le son, travail sur les timbres, qui vont de pair avec l'improvisation libre et avec vos démarches à tous les deux d'ailleurs.
Ben, en fait, moi, ce que je trouve que c'est un, ce que ça interroge, c'est pas forcément justement le
ça peut interroger.
Oui, ce que je trouve que ça, ce que ça interroge le plus, enfin en tout cas à mon sens, c'est la forme. C'est-à-dire que comment là, il y a pas de ligne mélodique, il y a pas de forme prescrite. Comment l'organisation de la musique se décide sur le moment, mais elle n'est pas constituée par une structure qu'on suit et qui passe par une dite, une redite, un moment de solo. C'est l'organisation de la musique est beaucoup plus complexe que ça. Vous voyez, ça passe par des moments très abrupts, des arrêts. Mais encore une fois, là, rien n'est défini. Hein. On se lance et c'est au ressenti de l'un et de l'autre. Et je trouve que là, du coup, ça a été une des problématiques que j'ai rencontrées quand j'ai commencé à m'intéresser à cette musique, c'est que la musique traditionnelle me donnait une forme d'organisation, liée en grande partie avec la danse, donc avec la fonctionnalité de la musique. Donc là, évidemment, il n'y a pas de fonction particulière autre que de l'écouter. Donc ça veut dire que tout aussi, on peut organiser la musique de façon totalement différente. On peut avoir du rythme, on peut pas en avoir. On peut avoir une mélodie, on peut ne pas en avoir. Et ça peut être avec et ça peut être tout ça en même temps.
Sur la notion de forme, il y a autant d'avis que d'improvisateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé 1000 fois de poser des questions sur la forme d'une improvisation ou à l'intérieur d'une improvisation. Et c'est très compliqué parce qu'effectivement, il y a cette organicité. Hein, on est dans quelque chose d'organique qui se développe au fur et à mesure de l'écoute et finalement, ou du moment vécu de la musique. Et je me souviens que Evan Parker, à un moment donné, autre saxophoniste mais anglais lui, disait que l'improvisation c'était vraiment l'espace réduire le plus que faire se peut l'espace entre la pensée et le geste musical, donc vraiment être là-dedans. Et cette notion de forme, du coup, c'est est-ce qu'on développe, est-ce qu'on a une vision, est-ce qu'on peut avoir une vision. Alors par exemple, les organistes ont une vision, c'est absolument incroyable. Quand vous faites des séances d'improvisation avec ou des concerts d'improvisation avec les organistes, ils ont tellement l'habitude de structurer leurs improvisations dans le temps par rapport à l'office, par rapport à la messe, puisqu'ils viennent de là, c'est leur tradition à eux, que finalement, même quand ils sont en situation d'improvisation sur un plateau ou avec d'autres musiciens, ben, ils structurent. La forme est là, ils la pensent à l'avance, ne serait-ce que parce qu'il faut préparer des jeux, donc tirer des jeux et préparer l'instrument. Donc déjà, ils ont la forme. D'autres musiciens ne veulent pas entendre parler de forme.
C'est effectivement une grande discussion que j'ai eue un jour avec Jean-Luc Capozzo, qui est... Jean-Luc, lui, il défend l'idée... Enfin, il vit ça comme ça plutôt que de la défendre. Il pense que l'improvisation doit être au-delà de lui-même. Donc, il trouve que il atteint quelque chose qui est bien pour lui quand il est dans une forme de lâcher prise.
Traversé par la musique.
Ouais. Ça rejoint peut-être un peu ce que tu disais aussi pour la transe. Et moi, je suis pas vraiment dans cette forme de pratique. Je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne par des formes d'organisation, donc des formes de pensée, ce qui m'empêche que je passe mon temps à comment déchirer ce que j'ai commencé à entreprendre si la personne avec qui je joue a trouvé une meilleure idée que moi. Enfin, c'est constamment des schémas de pensée qui... Et ça, là, du coup, quand on est dans cette forme de pratique de la musique, l'improvisation est du coup une forme d'écriture de la musique, enfin de conception de la musique. Et là, ça rejoint une autre idée d'un compositeur de musique contemporaine, c'est Georges Apergis, qui... j'ai pas la citation exacte, c'est plutôt dans l'idée. Apergis dit que pour lui, l'auditeur doit être maintenu en état d'éveil permanent. Que la musique doit tout le temps le surprendre parce qu'à partir du moment où ça ne le surprend plus, il ne l'écoute plus. Et là, forcément, dans ma pratique de l'improvisation, c'est quelque chose qui me parle. Ouais.
Est-ce qu'il y a... On peut faire circuler un micro maintenant?